Bienvenue dans ce troisième épisode de Techno Terroir, le podcast qui pose des questions sur notre rapport aux machines, à la vigne et aux chais. Si vous venez d'embarquer, je vous présente le projet en quelques mots. Je m'appelle Chloé Martin et ce podcast est mon journal de bois. Je suis mi-vigneronne, mi-product manager, donc ça me met parfois dans un état de tension et de paradoxe autour de mes choix techniques. J'ai pas envie de m'esquinter le corps et je ne veux pas non plus de robots comme seul collègue, même si j'adore la science-fiction. Et je suis persuadée que je ne suis pas la seule, donc je vais à la rencontre des personnes qui expérimentent et réfléchissent à de nouvelles façons, ou anciennes façons, de faire. La musique du générique est faite par mon ami Riot60, et le reste est réalisé avec un Zoom H5 et Audacity. Dans cet épisode, on part enfin dans les vignes, et j'ai la chance de vivre en plein milieu d'un nouveau vignoble en construction, donc les innovations sont toutes proches. Vous entendez ces vagues ? On est dans le Morbihan, là où poussent de nouveau les vignes. Plus précisément chez Nolwenn et Roland du domaine Tease, à Locmiquélic, près de Port-Louis et de Lorient. Tease, ça veut dire la vitesse, l'élan en breton. Par exemple, on dit Tease d'Our ou Tease Vor pour parler du courant marin. Et en français, ça donne quelque chose en rapport avec le vin. De tous les domaines bretons qui démarraient il y a quelques années, le domaine Tease était celui qui m'avait tout de suite intrigué parce qu'ils suivent d'autres techniques que celles communément appliquées sur les autres projets. Déjà, Nolwenn et Roland ont commencé par planter des porte-greffes afin de permettre aux racines de bien s'adapter au nouveau climat et de s'ancrer correctement. Ensuite, ils ont surgreffé, ce qui est une prise de risque considérable mais bien gérée si les parcelles sont à taille humaine. Et en plus, cela permet d'apprendre le geste pour les prochaines années, donc c'est bien d'être autonome sur cette partie-là aussi. Mais ce n'est pas la seule approche innovante de ce domaine, qui se veut sincèrement terroir. La réflexion des outils et leurs contraintes associées ont été pensées dès le démarrage du projet, en adaptation au changement climatique, forcément, mais aussi pour initier une communauté de pratiques. Comme ils l'ont dit durant notre conversation, quand on n'a pas de collègues voisins, cela peut être un handicap, mais finalement, cela pousse à penser autrement. Et surtout, il n'y a pas de regard comparateur, donc cela donne beaucoup de liberté. Bonjour Roland et bonjour Nolwenn.
Bonjour Chloé.
Bonjour Chloé.
Je voulais vous rencontrer parce que vous êtes un peu particulier, je trouve, dans le paysage des projets viticoles bretons, d'un point de vue choix machine et aussi choix de vinification, et de la façon dont vous travaillez et de votre rapport aux machines. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter brièvement, comme ça me permet de réutiliser aussi peut-être certains termes.
Globalement, nous on est le Domanitise en breton en fait. On a commencé à planter en Bretagne en 2019 et vinifié en 2020, donc des raisins du Négoce qu'on allait vendanger en Loire-Atlantique, autour d'Angers également, enfin entre Angers et Saumur. Non, au tout départ d'ailleurs dans le sud de la France, voilà, de la Négrette et du Jurançon noir. Et on a fait un projet d'implantation très progressif, puisqu'on a commencé par planter 1000 mètres carrés expérimental, puisqu'on en parlera sans doute tout à l'heure, mais on a un modèle agricole qui est de l'ordre de l'expérimentation, en tout cas pour nous, et puis je pense même ailleurs. Et puis on a vinifié également petit à petit, en commençant par, je ne sais plus, on va dire 2000 bouteilles, voilà, pour arriver aujourd'hui à environ 7000 bouteilles. Voilà, donc on est implanté dans le sud du Morbihan, Sud-Bretagne, à côté de Lorient, donc tout près de la mer, on est à, je sais pas, 5 minutes de la mer à peu près. Je pense que globalement, ça raconte un peu ce qu'on est.
Et du coup, quand vous avez commencé votre projet, Vous avez forcément, même au moment de la plantation des porte-greffes, vous avez dû choisir certains outils. Vous êtes parti tout de suite sur du manuel ou vous avez, enfin, est-ce que...
Oui, c'était, on est vraiment parti tout de suite sur sur du manuel. C'était il y avait l'idée qui était là déjà et ensuite parce que c'est une petite parcelle donc on s'est pas trop posé la question d'investir dans un tracteur voilà et la parcelle était prête en fait parce que c'était une luzernière depuis 4-5 ans donc voilà on a juste bâché en fait le sol pendant 3-4 mois je crois, avant de planter. Donc pas de sous-solage,
De sous-solage, c'était histoire de tuer l'enherbement qui était, enfin de détruire l'enherbement qui était présent. Mais au-delà de ça, il y avait réellement une volonté de non mécaniser pour plusieurs raisons. Mais c'est vrai que comme dit Roland, 1000 mètres carrés, on ne s'est pas posé la question d'utiliser un tracteur. Hein. De toute façon, c'était pas utile. Mais il y avait derrière la volonté d'expérimenter de la non mécanisation, d'évaluer le temps de travail. Et puis de réfléchir à comment c'était adaptable à la vigne en fait.
Est-ce que vous définiriez votre approche comme du low-tech ou vous répondez pas forcément de ce terme-là?
Moi c'est vrai que c'était la première fois que je réfléchissais à ce mot-là, ça m'a fait penser à low-cost, je me suis dit oh pas beau.
Ouais.
Mince, ça ne parle pas. Mais en fait sans y réfléchir. Et en fait, c'est vrai que quand tu m'as posé la question, je me suis dit, non, ça ne nous correspond pas parce que nous, on n'a pas d'outils. En fait, nous, pour seul outil, on utilise une débroussailleuse, une tondeuse et, j'ose le dire, un tournevis.
Un pulvé à dos aussi.
Voilà, un pulvé à dos et une fourche de temps en temps.
Ce qui n'est pas le moindre des outils.
Mais donc, en fait, pour moi, c'était... Assez bizarrement, je le considère pas comme de l'outillage, en fait. Parce que... C'est pas un outillage que j'utilise pour travailler le sol, pour labourer le sol. Et du coup, moi, j'avais fait le lien entre outillage de travail et labour. Voilà. Alors que c'est pas du tout le cas.
Oui, puis c'est vrai qu'on n'a pas, on a jamais eu l'impression d'être, d'avoir de l'outillage en fait viticole, parce que, enfin, j'ai pas envie de dire, mais ah si, j'ai envie de dire, tout le monde a une débroussailleuse et une tondeuse, qu'on a un jardin de plus de 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, quoi. Donc c'est vrai qu'on est on est un peu dans ce type, puis on n'a pas une tondeuse spéciale, on n'a pas, il faudrait, mais ouais. Peut-être. Il y a dans l'outillage, c'est un truc souvent auquel on pense, et puis, mais en fait ça se fait un peu de soi-même, notre tondeuse elle renvoie un peu l'herbe sur le rang, donc il y aura peut-être juste un truc qui projetterait mieux l'herbe, des petits détails comme ça, mais...
Là tu serais prêt à le bricoler du coup sur ta machine?
Pourquoi pas, ouais. Oui, je pense que ce serait pas compliqué, il faudrait juste quelqu'un qui puisse souder un truc ou je sais pas. Mais c'est vrai qu'on l'a pas, moi je l'ai pas, enfin moi non plus l'idée low tech ça m'a pas, même si du coup on a regardé plein de choses parce que les idées elles sont là depuis le départ, donc on a regardé qu'est-ce qui se faisait, on a regardé pas mal de choses, on a essayé beaucoup de choses aussi parce que la parcelle elle est la première parcelle elle est au GAEC du Hunger qui est une ferme en sol vivant mais sur du maraîchage. Donc lui, il a toute une petite panoplie d'outils pour désherber, machin. Donc on a fait pas mal d'essais comme ça, quoi. Mais bon, finalement, pour revenir au tournevis, qui est le plus pratique pour vraiment enlever les racines, et voilà, dans le désherbage, on le fait en grande partie comme ça.
En fait, je crois que, pour être honnête, c'est que la question de l'outillage, c'est pas été la question première. La question première, c'était on veut travailler en sol vivant. On a envie de... Moi, j'avais expérimenté ça en maraîchage. Voilà. Ça m'intéressait. Toi, Roland, ça t'intéressait peut-être pour d'autres raisons que des raisons agronomes, peut-être plus politiques. Mais moi, ça m'intéressait, cette question du sol vivant. Je l'avais expérimenté, j'avais réfléchi à est-ce qu'elle est adaptable à la vigne, en fait, et à la viticulture. Donc, en fait, notre première question, c'était plus des questions agronomiques. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut imaginer sortir des moûts avec des taux d'azote suffisants, etc., sur du sol vivant et du paillage. Donc, on a quand même beaucoup bossé là-dessus. Et après... sans, je pense, au début, se poser la question de la technologie. Et pour se rendre compte, parce qu'en sol vivant, en maraîchage, c'était la même question, c'est qu'il n'y a pas d'outils adaptés au paillage des sols, ou très peu. En tout cas, pas sur des petites surfaces. Pas sur des rangs comme c'est le cas pour la vigne en fait. Et du coup en fait la question de l'outillage elle n'est venue qu'après, et comme on avait une petite parcelle on s'est dit bah on va pas aller investir et on n'en avait pas besoin et c'était pas adapté à ce qu'on faisait, donc on s'est pas dit qu'on allait investir dans des outils qui finalement n'étaient pas adaptés, qui nous auraient coûté cher. Et quand je dis pour Roland c'était peut-être plus tout autant que pour moi, mais moi je m'étais plus penchée sur la question agronomique. C'était aussi une question politique, c'est-à-dire pas d'outillage, ça veut dire pas d'investissement, pas de prêt bancaire. Et pour nous, ça comptait, en fait, de pas être lié par des prêts bancaires. Ça, c'était vraiment très important pour nous. On avait envie d'être libre dans nos choix agronomiques et libre dans nos choix de vinification. Parce qu'en fait, ce dont on parle là, c'est dans le cadre de la vigne, mais au chai, c'est pareil. Au chai, on est non mécanisé, enfin, on a un pressoir manuel vertical, on soutire par gravité. Voilà, on n'a pas de machine en fait, on n'a rien. Et ça, c'était vraiment important pour nous parce que. De notre point de vue, ça nous laissait une liberté dans nos choix et dans notre rythme, en fait. Ça ne nous... On a un rythme qu'on s'impose, nous, ou que la nature nous impose, mais pas que quelqu'un de l'extérieur vient nous imposer ou qu'une banque vient nous imposer. Et ça, vraiment, c'était important pour nous.
Le choix des machines pour vous, c'est ça part d'un choix donc philosophique d'approche du sol, donc agronomique, des choix agronomiques, des choix ergonomiques et financiers. Est-ce que l'énergie et l'environnement, enfin ça fait partie aussi de vos questionnements, ou en fait c'est déjà inclus dans la taille de votre projet, dans votre approche? Est-ce que c'est la question, c'est... Dites peut-être que voilà, ça dépensera de moins de CO2 ou moins d'électricité ou alors c'est déjà inclus,
c'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment un tout dans notre réflexion, quoi. C'est de dans notre mode de vie aussi, quoi. On essaie de réfléchir à ouais, une forme, je sais pas si c'est le mot, mais une forme de décroissance, quoi.
Et d'autonomie
aussi, quoi. De dire qu'à un moment, on récupère nos bouteilles aussi. Enfin bon, on essaie de trouver le bon système là. Mais c'est vraiment un ensemble. C'est une conception globale du projet en fait. Et d'avoir des animaux aussi. Après, nos parcelles sont pas près de la ferme, donc voilà. Mais bon.
Vous avez quoi comme animaux là,
des moutons. Mais en fait, on ne les inclut pas pour l'instant dans le vignoble.
Non. Parce que c'était tout ça, ça faisait partie. On a des ruches aussi là. Mais après, on n'a pas le temps de tout faire. Mais il va y avoir du coup un apiculteur qui va mettre des ruches aussi sur notre parcelle. Enfin bon.
En fait, c'était penser notre vignoble dans un système global, qu'il soit politique, social, économique, écologique, voilà. Et comment les choses s'incluent. Enfin, en fait, nous, on a planté de la vigne, on a 51 et 52, on va dire, c'est ça, un truc dans le genre. On a eu le temps de réfléchir et d'avoir des expériences avant, et des choses qui nous conviennent et des choses qui ne nous conviennent pas. Du coup, aujourd'hui, se lancer dans un projet comme ça, en Bretagne, qui plus est, puisque c'est nouveau, il fallait que ça nous corresponde, quoi. Et puis en Bretagne, qui plus est, je dis ça parce qu'en fait, tout est possible. Il n'y a pas d'histoire de la viticulture en Bretagne, ou en tout cas, elle remonte. Il n'y a pas de cadre. Quelque part, il n'y a pas de voisins. Donc finalement, autant c'est un handicap dans les vinifications et à la viticulture aussi, hein, parce que nous, on est très contents de voir des collègues vignerons ou vigneronnes qui passent sur la parcelle ou qui passent goûter et avec qui on peut échanger. Mais en même temps, on n'a pas de regard sur ce qu'on fait. Et du coup, ça nous laisse quand même une liberté qui est assez énorme.
Je me rappelle bien, vous avez d'abord planté les porte-greffes et après greffé pour que la vigne s'adapte vraiment bien au sol, etc. C'est parce que c'était à cause du réchauffement climatique ou c'était juste par rapport au...
C'est Moi, je te laisserai.
Enfin, est-ce que vous anticipiez
En fait, on l'a fait que sur la première parcelle de 1000 mètres carrés. Ouais. Voilà, on aurait bien aimé le faire sur le reste, mais bon, il y avait un coût financier un peu plus important. Hein. On était un peu juste, grosso modo. Mais je pense qu'à l'avenir, si on devait replanter, on le refera. Mais non, c'est une histoire de pérennité aussi de la plante, quoi. Voilà. C'est ce qu'on entend souvent, c'est que sauter greffé en usine, ça, bon, au bout de 15 ans, entre 15 et 30 ans, voilà, ça devient un peu l'espérance de vie, quoi. Et sur du greffé sur place, on va aller plus loin aussi, quoi. Et plus de résilience, on espère. Du coup, c'était du massal aussi. Il y avait tout, c'était un peu cet esprit-là, et puis peut-être aussi tout simplement, au départ on voulait le faire nous-mêmes, finalement on a fait faire, mais il y avait aussi cette idée de retrouver un peu tous ces gestes paysans qui faisaient partie avant en fait de des métiers, quoi.
Donc c'est fait à la main aussi là, quand c'est surgreffé.
Oui. Et c'est vrai qu'on discute avec, on aime bien discuter avec tout le monde, et entre les anciens, on voit bien que ils connaissent la greffe, en fait. Ça faisait partie de l'environnement de tout, de tout professionnel de la terre, et même même des gens qui vivaient à la campagne, quoi. Donc il y avait un peu aussi cette idée-là, et aussi vraiment sur la pérennité de la plante, quoi, et la diversité aussi, la biodiversité, il y a tout ça, quoi.
Mais quand tu poses la question écologique, d'un réchauffement climatique, une modification climatique d'ailleurs, c'est une question qu'on s'est clairement posée, et cette question du paillage, elle était aussi liée à ça. C'est-à-dire que même si on est en Bretagne, il a fait sec certains étés, notamment l'été où on a planté pour la première fois, ça a été 2019, il a fait hyper sec. Hyper chaud, et en fait le paillage il a carrément sauvé notre plantier, en fait. Ça, c'est clair et net. On gardait un taux d'humidité. Alors moi, quand on paille, quand je dis que je paille sur, au départ, plus de 30 cm, je suis entre 30 et 40, ça se tasse très rapidement, mais je suis entre 30 et 40, donc ça crée une couche qui va tenir toute l'année, grosso modo. De plus en plus d'ailleurs au fur et à mesure du temps, parce qu'un des réveils de dormance de la graine, c'est le choc, donc le labour, en fait, avec l'humidité, la chaleur. Et moins on réveille cette graine, moins on a d'enherbement à pousser, notamment parce que le paillage est tel que la lumière ne passe pas, et voilà. Et du coup, cette question du paillage, elle était liée à ces modifications climatiques, c'est-à-dire gérer l'humidité du sol en cas de sécheresse, et gérer des trucs trop grandes pluviométries, comme en 2024, où ça a été, nous en Bretagne, on a eu un an et deux mois de pluie, grosso modo. Nous, en fait, on n'a pas eu cette problématique de rentrer ou pas dans notre parcelle, parce que c'est pas labouré. Et parce qu'en fait, l'enherbement faisait que... Et puis on a aussi un type de sol qui fait que c'était pas de l'argile, on n'était pas en train de s'enfoncer dedans. Mais en fait, l'enherbement et le paillage faisaient que la structure du sol, elle était maintenue. Qui plus est, on est à dos, donc on rentrait avec notre voiture, bien sûr. Mais à dos, rentrer à pied, c'est pas une question. On peut toujours rentrer à pied. Donc nous, les traitements, on a toujours pu les faire. On n'a pas été retardé, hormis par la pluie qui, comme tout le monde, nous empêchait. Mais voilà, ça, c'est vraiment des questions qu'on s'est posées de façon importante dès le départ. Ouais. C'était pas une lubie, en fait. C'était comment est-ce qu'on adapte la vigne à notre territoire aujourd'hui, en fonction du sol, c'est-à-dire du territoire, du sous-sol, de ce qui se passe en Bretagne, la pluviométrie, le vent. À d'éventuelles modifications climatiques, en fait. On savait qu'elles allaient arriver, dont on sait qu'elles vont arriver.
Et donc là, en termes d'adaptation, si sur les 10 prochaines années à venir, on voit qu'il y a encore des fluctuations saisonnières un peu plus tranchantes encore, tu adapterais avec des choix agronomiques, comme ce que tu viens de dire avec la paille. Et si tu devais utiliser d'autres outils ou adapter tes outils, tu les modifierais toi-même, ou tu irais chercher
d'autres prototypes? Je suis pas capable, en fait. Ouais. Voilà, clairement. Alors maintenant,
qu'est-ce qui te manquerait pour
très très chouette,
pour créer toi-même?
J'aurais besoin de me tourner de temps et de me tourner vers des structures qui existent et qui sont capables d'adapter de l'outillage, hein, comme l'atelier paysan par exemple, ou voilà, mais je connais pas bien. Faut dire que quand tu implantes de la vigne, ça demande un petit peu de temps. C'est un peu chronophage. Et du coup, on n'a pas pris le temps, ni Roland ni moi, de se tourner vers des choses existantes ou des structures existantes qui pourraient nous aider, parce que c'est ça dont j'aurais besoin. Bon, après maintenant, je commence à échanger avec d'autres vignerons ou vigneronnes qui me disent « bah tiens, c'est ton système, il m'intrigue, il nous intéresse ». D'autant plus qu'aujourd'hui, on a fait des analyses sur nos premiers mous et qu'on est content des résultats, en fait, parce que bah, c'était pas une évidence d'emblée. Mais ouais, j'aurais besoin d'aide. Mais le fait d'en parler avec d'autres vignerons ou vigneronnes de ce système, qui font des essais sur leur propre domaine, ben, ça me permet de réfléchir avec d'autres à comment adapter un système, parce qu'eux, ils ont des idées parfois que ben, moi, j'ai pas eu, en fait, parce qu'on a le nez dans le guidon, qu'on oublie, que finalement, on utilise un modèle et puis qu'on se pose pas toujours la question de savoir comment on peut l'adapter. Donc ça, moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est que mon modèle, ben, je puisse le partager avec d'autres personnes et rencontrer d'autres personnes qui l'utilisent. Et puis d'être soutenu par des gens qui savent adapter un outil.
C'est précisément pourquoi j'ai fait ce podcast, tu vois. Il y a un creux, il y a une sorte de vide. Oui, il y a l'atelier paysan, mais il y a pas que. Je crois qu'il y a Ecodine aussi dans le Muscadet, mais ils sont vraiment plus sur les portes-outils. Mmh. Et tout le reste, ouais, ça dépend des micro-communautés sur place, quoi. Si t'as un voisin qui a un poste à souder, un petit papy là qui sait encore démonter son tracteur, mais sinon.
Ouais, c'est un vide. Bah parce que je pense que ça correspond aussi à un autre modèle agricole.
S'il devait y avoir un outil ou une machine vraiment idéale, pas forcément, voilà, mais là tu parles d'un potentiel prototype. mais est-ce que voilà, il y a un outil ou une machine que vous rêveriez de fabriquer, de voir une machine qui paille, donc tu vois, pour ça.
Ça non, ça c'est évident, c'est extrêmement chronophage.
Sur la taille ou autre, non, c'est vraiment le paillage qui est vraiment crucial
pour nous, ouais.
Ok.
Ouais, et puis
en fait, c'est tout l'enjeu de notre non-labour. Hein. Déjà. Et ça nous prend énormément de temps. Si on rapporte ça, enfin énormément de temps, si on rapporte ça à l'hectare, ça nous prend trop de temps et c'est trop physique, en fait.
Sauf qu'on en revient, à mon avis, c'est cette histoire de machine qui paille, qui existe peut-être déjà, ou que quelqu'un a déjà bricolé un truc, certainement, mais voilà, on revient à cette histoire de tracteur. Nous, on a quand même pensé aussi. Enfin, notre parcelle, on a bien occupé le terrain, il faudrait qu'on enlève des plants,
Après, tu peux avoir des machines, t'as été pas obligé d'avoir un gros tracteur non plus. Enfin, moi, ce que je me dis, c'est s'il y avait un outil, s'il y avait un outil à inventer, c'est un outil globalement à ma taille, de type motoculteur ou je sais pas quoi, mais qui a un système de paillage sur le côté qui soit efficace, quoi. Parce qu'on parle de roundballeurs, ils sont pas faits pour du paillage humain. Hein. Mmh. C'est énorme, un round, en fait.
Vous avez pas plus petit les petits carrés?
C'est hyper dur à trouver.
Les machines pour les faire n'existent déjà de moins en moins.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est hyper dur à trouver. En bio, qui plus est, c'est impossible. Des petits rounds, c'est pareil, c'est quasi impossible à trouver. Donc on se retrouve avec des trucs qui font la largeur du rond, grosso modo. Ouais, c'est ça.
Fallait planter en pente.
Mais bon, ça c'est ce genre de conseil qu'on pourrait donner aussi à quelqu'un, quoi. Qui, nous, pour des raisons qualitatives, on a planté dense. Voilà. Donc, et puis c'est vrai qu'on a des sols qui sont riches aussi. Donc, pour nous, ça avait un sens de planter assez dense. Enfin, c'est pas énorme non plus. Hein, on est à
1,60 sur 1. En fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que 2 mètres, le roundballeur, il est plus facile à dérouler, quoi. Mais bon. Après,
mais ça colle pas non plus en termes d'épaisseur. Faudrait vraiment penser, en effet, pour moi, il y a pas. Il faudrait réussir à penser une machine qui soit adaptée à cette pratique.
Ouais. Oui, et puis même, c'est vrai que de pouvoir dérouler le round, il faut quand même il va juste être déroulé, en fait, donc il faut quand même pailler. Voilà. Ça fera gagner un peu de temps, mais ça changera pas.
Il n'y a plus qu'à faire le croquis, alors.
Ouais, c'est ça. moi j'avais envie de me réapproprier la question du temps de travail en fait, et mon rapport au travail et le rythme que j'avais envie d'avoir dans mon travail. Et en fait, le fait d'être à pied tout le temps dans ma parcelle, ben ça n'a pas de prix, quoi. Parce que je peux pas aller plus vite que mon corps me le dit, en fait. Et cette non-mécanisation, où ben finalement c'est de low-tech, parce que ça peut un peu correspondre quand même à ça, ben ça me le permet. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. Je trouve que là, le rythme, il est imposé par mon corps et par les saisons, l'environnement, et pas par la machine. Et je veux pas le perdre.
Réappropriation des machines et réappropriation du temps.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est tout court, hein, mais le désherbage, là, on va le faire cet hiver, en fait, quoi. Et après, on n'a pas encore conscience du temps que ça nous prend vraiment. Mais c'est vrai que nous, c'est toute une partie qu'on n'a pas à faire au printemps, quand il y a bien d'autres choses à faire sur la vigne, quoi. Et ça, quand on sera bien calé, ça va être un vrai confort, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, nous, une fois que le désherbage et le paillage est fait, on n'intervient plus du tout. Voilà. Là-dessus, en fait. Ça, c'est terminé. Et on peut se consacrer à tous les autres travaux qui sont nécessaires au printemps. Les traitements. Mais voilà.
Et du coup, même si en allant un peu plus loin. Parce que l'hiver, il y a quand même d'autres choses à faire, parce que voilà, le métier de vigneron, il y a aussi la vente, la commercialisation et tout ça, quoi. Mais il y a peut-être un moment aussi, c'est il y a une très grosse drache. Est-ce qu'à un moment, bon, on n'arrivera pas à se dire, bon, allons, là, on n'y va pas, et puis on attend, demain, il fait beau, et ben, voilà, on va faire des cartons, passer des coups de fil, quoi. Il y a aussi ce rapport à, pas autant horaire, mais autant, autant qu'il fait, tout simplement, quoi. C'est sûr que si on a un tracteur et qu'on est couvert,
on
y va plus facilement. Mais sauf que s'il pleut trop, on ne peut pas rentrer dans sa parcelle. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va voir un peu au fur et à mesure comment on va réussir à se caler, quoi. Mais en termes de confort aussi de travail, c'est vrai que c'est pouvoir marcher dans ses vignes, c'est super, quoi. Enfin, ça prend, moi, ça a vraiment du sens pour moi, en tout cas, quoi. Et du plaisir, c'est vraiment du plaisir aussi.
Parfait mot de fin. Merci Roland, merci Nolwenn.
De rien, merci
à toi pour cet échange.
Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Techno Terroir avec Nolwenn et Roland du domaine Tiz. J'espère que cela vous aura donné envie de goûter leur vin, avec modération bien sûr, au marché de Port-Louis par exemple, ou dans les bonnes caves de l'Ouest. Pensez-y pour vos prochaines vacances sur la côte. Pour ma part, je commence à mieux cerner les différentes formes de ce que j'appelais low-tech au début de ce projet, et de ses imbrications avec des enjeux bien concrets et nécessairement politisés. Je prends conscience aussi qu'il n'y a pas autant de compromis possibles entre le choix de la high-tech et celui d'une approche plus manuelle. En tout cas, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais quand j'entends les appels à faire communauté autour de prototypes ou des pratiques réussies comme celles qu'on a entendues à Loc-Mikelic, je me dis qu'il y a encore de l'espoir. Alors à bientôt pour la suite.